propose que nous lisions ensemble quelques versets dans le livre de Josué. D'abord au premier chapitre. Et il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, en disant, « Moïse, mon serviteur est mort, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Aux frontières seront, depuis le désert et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, et sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Passons au chapitre 4. Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué, disant, « Prenez d'entre le peuple 12 hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant, « Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des sacrificateurs, 12 pierres, et vous les transporterez avec vous, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Et Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu, et Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque, dans l'avenir, vos fils demanderont, disant, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées, et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, et ils les transportèrent avec eux au lieu de leur campement, et les posèrent là. Et Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles sont là jusqu'à ce jour. Au verset 19, « Et le peuple monta hors du Jourdain le 10e jour du premier mois, et ils campèrent à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Et ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Et il parla aux fils d'Israël, disant, « Lorsque, dans l'avenir, vos fils interrogeront leur père, disant, « Que sont ces pierres ?» Vous instruirez vos fils en disant, « Israël a passé ce Jourdain sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, sécha les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre reconnussent la main de l'Éternel, qu'elle est forte, afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Quelques versets encore au chapitre 22 de ce livre de Josué. Disons déjà au verset 9e. Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent et s'en allèrent d'auprès des fils d'Israël de Silo, qui est dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, le pays de leur possession, dont ils avaient reçu la possession, selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Ils vinrent dans les contrées du Jourdain, qui sont dans le pays de Canaan. Et les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé bâtirent là un autel auprès du Jourdain, un autel de grande apparence. Et les fils d'Israël ouïrent dire, « Voici les fils de Ruben, et les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les contrées du Jourdain, à côté des fils d'Israël. Les fils d'Israël ayant appris toute l'assemblée, les fils d'Israël se réunissent à Silo pour monter en bataille contre eux. Et les fils d'Israël envoyèrent vers les fils de Ruben, et vers les fils de Gad, et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et avec lui 10 princes, un prince par maison de père, de toutes les tribus d'Israël, et chacun d'eux était chef de maison de père des milliers d'Israël. Passons au verset 22. Le Dieu des dieux, l'Éternel, le Dieu des dieux, l'Éternel, lui le sait, et Israël, lui le saura, si c'est par rébellion, et si c'est par iniquité contre l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Que nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si ça a été pour y offrir des holocaustes et des offrandes de gâteaux, et si ça a été pour y faire des sacrifices de prospérité, que l'Éternel lui-même leur demande. Et si ce n'est pas par crainte de cette chose que nous avons fait cela, disant, dans l'avenir, vos fils parleront à nos fils, disant, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel a mis une frontière, le Jourdain, entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et ainsi vos fils feraient que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Et nous avons dit, mettons-nous à bâtir un autel, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Et entre nos générations après nous, afin de faire le service de l'Éternel devant lui, par nos holocaustes, et par nos sacrifices, et par nos sacrifices de prospérité, afin que vos fils ne disent pas dans l'avenir à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et nous avons dit, s'il arrive qu'ils nous disent cela à nous et à nos générations dans l'avenir, nous leur dirons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous que nous nous rebellions contre l'Éternel et que nous nous détournions aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes de gâteaux et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant son tabernacle. » Ces versets seulement. Au début de ce livre de Josué, l'Éternel donc parle à Josué pour lui transmettre une mission qui avait été confiée à Moïse lorsque l'Éternel l'a appelé au buisson en Horeb pour lui donner cette charge de conduire Israël hors du pays d'Égypte et l'amener jusqu'en Canaan, pays ruisselant de lait et de miel qu'il avait déjà promis à Abraham et duquel le peuple devait prendre possession sous la conduite de Moïse. Nous savons quelles ont été les infidélités du peuple qui les a retenus 40 ans dans le désert. Quelles ont été aussi, ou quelle a été la faute de Moïse lui-même, avec Aaron, péché d'introduire lui-même ce peuple dans la terre promise. D'ailleurs, non seulement Moïse, mais tout le peuple, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui sont sortis d'Égypte, ont dû mourir dans le désert. Seuls Josué et Caleb étaient arrivés, sains et saufs, à la frontière de Canaan. Maintenant, dans le début du livre de Josué, il doit y avoir transmission transmission, on dira transmission des pouvoirs. Non, ce n'est pas des pouvoirs. Transmission de la mission. Transmission de la responsabilité. Nous l'avons lu. Moïse, mon serviteur est mort, et maintenant, lève-toi. Donc, d'une génération à l'autre, et ceci, nous pouvons bel et bien le transposer dans le contexte actuel. D'une génération à l'autre, ce qui a été remis comme témoignage, comme responsabilité dans l'Évangile, doit être transmis à la génération suivante. Pas seulement de cette façon, comme nous l'avons dans ce début du livre de Josué, transmis parce que les aînés viennent de mourir et que ce n'est qu'à ce moment-là que de plus jeunes prennent la relève. Non, nous le savons, et pratiquement combien cela est expérimenté, que cette transmission doit être progressive, je dirais même continuelle, pour que, au fur et à mesure que les années passent, que cette responsabilité des aînés puisse être reprise par les générations qui se succèdent. Et combien c'est heureux pour les aînés. J'en fais partie, d'autres sont encore plus âgés. Combien c'est heureux pour nous de voir de plus jeunes frères qui prennent une responsabilité dans le rassemblement. Et même, peut-être aussi, de tout jeunes qu'on voit avec un cœur engagé. Un cœur engagé, je souligne cette expression, parce qu'elle se trouve dans l'Écriture au chapitre 30 de Jérémie. Et c'est une question que Jérémie ou que l'Éternel pose par son prophète. Je lis, c'est un demi-verset, Jérémie 30, au milieu du verset 21e, la dernière phrase de ce verset, « Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi, dit l'Éternel, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi ? Notons bien que cet engagement et cette expression, un cœur engagé, est assez fréquemment utilisée, et surtout par la jeunesse. Et elle se justifie, certes, mais un cœur engagé, pourquoi ? Un cœur engagé pour aller, aussi, mais d'abord pour venir. Qui engage son cœur pour venir à moi ? Si l'on ne commence pas par venir à Jésus, on ne pourra jamais aller pour lui. D'ailleurs, lorsque le Seigneur a appelé ses disciples, il les a nommés pour être avec lui. La première parole qu'il leur adresse, c'est « Venez à moi » ou « Venez après moi ». Et ce n'est qu'à la fin de l'Évangile qu'il leur dira « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création ». Donc, engager son cœur pour venir à Jésus, pour venir avec lui, pour s'approcher de lui, pour le suivre. Et alors, on sera prêt pour aller où il nous envoie. On sera prêt pour accomplir la mission qu'il met devant nous. Chacun peut être à la sienne. D'une manière générale, c'est la mission de l'Évangile. Mais de façon particulière, c'est le service qui est celui de l'un, celui de l'autre. Le service de l'un n'est pas le même que le service de l'autre. Chaque membre a sa fonction propre dans le corps comme dans le corps de Christ. Et combien il est heureux alors de voir. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé de frères, de voir des sœurs et des frères. Parce que quand il est dit « Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi. Il n'y a pas de distinction de sexe. Les sœurs, les frères, les jeunes filles aussi bien que les jeunes gens, engager son cœur pour venir à Jésus. Et s'il en est ainsi, dans les générations qui se succèdent, un témoignage collectif pourra être maintenu. Et il sera maintenu, je dirais, il sera soutenu par l'engagement des sœurs, peut-être encore plus que celui des frères. Donc, Josué fait partie de cette génération qui doit reprendre le témoignage, qui doit reprendre le flambeau. Mais il est seul de son âge avec Caleb. Notons, puisque cela nous est bel et bien dit, que tout le peuple avait au minimum 20 ans de moins que lui. Au minimum 20 ans de moins que lui, probablement même 25 ans, parce qu'il semble, d'après les dates qu'on peut recouper, que Josué avait 45 ans quand il est sorti d'Égypte. Quand même qu'il est appelé jeune homme dans un endroit. Donc, au minimum 20 ans de moins, et voilà un peuple qui fait déjà partie d'une génération suivante. Quelle responsabilité, mais quel privilège pour Josué de conduire un peuple de relativement jeunes gens. Les aînés parmi eux pouvaient avoir au grand maximum 60 ans. Il n'y en avait point qui dépassait. Alors, voilà Josué qui est donc dépositaire d'une mission particulière. Il doit se lever pour passer ce Jourdain et y conduire tout le peuple. Il lui est dit, à lui comme à son peuple, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. » Alors, ce que Dieu lui dit, il ne va pas le garder pour lui-même. Cet encouragement qu'il reçoit de la part de Dieu, et on en a lu quelque chose un peu plus loin, « Ne fortifie-toi et sois ferme, je serai avec toi, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Va-t-il dire à son peuple, « Ah, j'ai reçu ceci, c'est pour moi, c'est à moi que Dieu s'est adressé. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est pour moi seulement. » C'est pour tous. La preuve, c'est que ce verset est repris dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13e. Et l'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas de soucis. » Disons passage, Hébreux 13, verset 5e, « Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc pour tous que cette promesse a été donnée. Josué ne la garderait pas pour lui-même, ne l'aura pas gardée pour lui-même. Il aura dit à ce peuple, « Et voilà la promesse de Dieu, voilà la promesse de l'Éternel. Il sera avec nous, il nous gardera, il nous protégera. Il nous demande simplement de nous engager à sa suite. » Puissions-nous, nous aussi, être conscients de la promesse de Dieu pour nous et d'avoir cette capacité, mais ce désir de transmettre, de communiquer à nos plus jeunes, à la génération qui suit. Et jeunes gens, jeunes filles, vous êtes vous aussi bénéficiaires d'une telle promesse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le témoignage que nous avons à rendre, chacun individuellement d'abord, collectivement aussi, il doit se rendre dans un monde qui se détériore. Notre environnement devient de plus en plus nocif. On peut craindre pour nos enfants. Le Seigneur est là. Il nous dit, ne crains point, fortifie-toi, sois ferme, je suis avec toi, je ne te laisserai pas. C'est pour nous aujourd'hui. Donc, Josué va conduire ce peuple, l'introduire dans le pays, et tout ce peuple devra prendre possession du pays. Dieu lui dit d'emblée quelles seront ses frontières. Est-ce que Josué va leur dire d'emblée à ce peuple, en les faisant entrer dans ce pays, « Attention, il y a des frontières, vous n'allez pas plus loin !» Non, il va leur dire d'abord, « Dieu nous a donné les frontières, elles sont là-bas, tout loin, allez jusque là-bas !» Et ces frontières ont une signification morale, spirituelle. Quelles sont-elles, nos frontières? Certes, elles sont là pour ne pas les dépasser, mais elles sont là, elles sont signifiées pour que nous les atteignions, pour que notre témoignage rayonne suffisamment et qu'il n'y ait pas, je dirais, des no man's land dans notre témoignage, des endroits où on n'y va pas surtout, on n'y touche pas, ça ne nous appartient pas. Non. Le Seigneur a dit à ses disciples et à nous, allez dans tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Comme ici, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. On a vu l'interprétation de ces frontières, certes. Le désert, c'est le monde dans son aridité. Le Liban, le monde dans sa gloire. Le grand fleuve, le fleuve Euphrate, le monde dans sa corruption. La grande mer, le monde dans son agitation. Mais est-ce que notre témoignage vis-à-vis de ce monde sous ses différents caractères, est-ce que notre témoignage a quelque chose de probant en face d'un monde qui s'agite, en face d'un monde qui se glorifie ou qui se corrompt de plus en plus, ou un monde qui est d'une aridité déconcertante? Est-ce que vis-à-vis d'un tel monde, nous démontrons quelque chose qui peut faire envie à ceux qui s'y trouvent? Voilà ces frontières, elles sont là pour ne pas les dépasser, mais elles sont là pour chercher à les atteindre. Nous avons passé ensuite au chapitre 4e pour voir, et toujours ceci dans l'optique des générations qui se succèdent. On l'a vu entre Moïse et Josué, deux générations différentes. L'un doit reprendre le témoignage qui avait été confié à celui qui précède. Nous sommes, nous aussi, des dépositaires d'un témoignage qui a été confié à nos parents, à nos grands-parents, à ceux qui nous ont précédés. Qu'en faisons-nous de ce témoignage? Surtout, cherchons à le maintenir dans son intégrité et à le transmettre dans son intégrité. Et au chapitre 4e, cela est dit directement à Josué, ou plutôt au peuple, en rapport avec ce monument, peut-on dire, ou ce monceau de pierres, quelque chose de très simple. 12 pierres, certainement pas bien grosses, elles étaient portées chacun par un homme depuis le milieu du Jourdain jusque sur la rive. C'était certainement pas des pierres de 50 kilos. Donc, ces 12 pierres, petit monceau, un petit tas là, sur le bord du Jourdain à Gilgal. Mais il a une signification. Et cette signification devait être transmise de génération en génération. Nous l'avons lu, la fin du verset 5 du chapitre 4, « Que cela leur soit un signe au milieu de vous, lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Alors, vous leur direz ainsi, etc. Notons cette question des enfants, des fils. Question qui interpelle leurs parents. Que signifient pour vous ces pierres? Que signifient pour vous ces pierres? Ils ne demanderont pas que signifient pour nous ces pierres. Non, mais d'abord pour vous. Est-ce que ce que le Seigneur nous donne à connaître dans sa parole a une signification profonde pour moi, pour chacun qui est père ou grand-père ou grand-mère? Est-ce que l'enseignement de la parole a vraiment sa signification profonde qui s'impose à notre cœur, à notre esprit? Que signifie pour vous ces pierres? Oui, nos enfants ont le droit de nous demander, je dirais même ils ont le devoir de nous demander, « Et toi, papa, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi quand le dimanche matin, tu participes à la fraction du pain? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Pas seulement ce que ça sera pour moi, mais ils nous diront, « Mais toi, papa, dis-moi pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et une telle question nous interpelle. Est-ce que c'est parce qu'on l'a toujours fait ainsi? Est-ce qu'on va leur répondre, « Eh bien oui, c'est ainsi qu'on se souvient du Seigneur, tout simplement, mais n'ayant rien qui fait vibrer nos cœurs, n'ayant rien qui puisse être transmis comme, je dirais, comme effusion d'amour, effusion de sentiments profonds à l'égard de ce que le Seigneur nous a laissé comme témoignage, comme souvenir. Que signifie pour vous ces pierres? Eh bien, que signifie-t-elle donc là? Ces pierres étaient prises du milieu du Jourdain, dressées sur la rive, et il y en avait 12, une par tribu, mais ce n'était qu'un seul monticule, qu'un seul monceau, un seul monument formé de 12 pierres. L'ensemble des tribus, l'ensemble du peuple était représenté par ce monument-là sur la rive du Jourdain, sorti du milieu du Jourdain, là où l'arche s'était tenue, les sacrificateurs la portant, sorti de là, posé sur la rive. Un peuple ressuscité, un peuple associé à Christ ressuscité. Voilà ce qu'est l'Église. Voilà ce qu'est l'Assemblée de Dieu. Un peu plus tard, du temps d'Élie, sur le mont Carmel, il a bâti aussi ou rebâti un autel. Et du temps d'Élie, il y avait eu un grand schisme en Israël. Deux tribus étaient restées attachées à la maison de David et à Jérusalem. 10 tribus s'étaient écartées, au milieu desquelles Élie se trouvait, était tombé dans l'idolâtrie, avait établi des veaux à Bethel et à Dan, et s'était éloigné de Jérusalem. Une coupure totale avait eu lieu au milieu du pays. Sur ce mont Carmel, Élie va construire cet autel qui avait été démoli. Va-t-il dire, eh bien, il n'y a plus que 10 tribus? Je ne mets que 10 pierres. Ou va-t-il dire peut-être, il n'y a plus que 2 tribus qui sont fidèles à Jérusalem. Je ne peux mettre que 2 pierres. Non, il en met 12. L'unité du peuple, selon Dieu, dans la pensée de Dieu, elle reste indépendamment de la division, de la séparation qui avait eu lieu. Séparation humiliante, certes. Mais malgré tout, cette unité devait être là. Il devait en être rendu témoignage. Donc, ces 12 pierres sur la rive, c'était déjà le même symbole, l'unité du peuple de Dieu, composé de 12 tribus, mais n'étant qu'un seul peuple, tiré de la mort, image donnée par le Jourdain, et mise sur le rivage du pays promis comme ressuscité, et nous avons la signification aujourd'hui vous êtes ressuscité avec Christ. C'est ainsi que peut être vu l'ensemble de l'Église sur la terre. Oui, l'ensemble. Ici à Toulouse, il y a combien de chrétiens, de véritables enfants de Dieu? Oh, s'ils étaient tous là, plût à Dieu qu'ils puissent y être tous. Mais la salle ne serait pas assez grande, j'en suis certain. Il faudrait reconstruire. Eh bien, malgré tout, s'il n'y en a qu'une petite partie ici, est-ce que on peut dire, eh bien voilà, l'Église est morcelée, et ce n'est pas seulement à Toulouse, l'Église est morcelée lorsque nous participons à la scène du Seigneur, on va mettre un petit morceau de pain sur la table. Non, on met un pain, un seul pain, mais un pain complet, parce que sous les yeux de Dieu, l'Église est complète, elle est une, elle est indivisible. Et n'est-il pas dit, les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Mais elle n'est pas composée des seuls membres que nous connaissons. Elle n'est pas composée des seuls chrétiens avec lesquels une pleine communion peut être goûtée. Tous les véritables croyants que seul le Seigneur connaît sont dans cette unité. Ils sont là. Et lorsque nous participons au seul pain à la table du Seigneur, c'est de cette unité-là que nous devons rendre témoignage. C'est cette unité-là que nous devons proclamer. L'unité de l'Église composée de tous les croyants où qu'ils se trouvent. C'est ce que signifient ces pierres dressées à Gilgal sur le rivage du pays promis. Et de génération en génération, ce témoignage devait subsister. Quand vos fils vous interrogeront, et ceci, et ce n'est pas pour rien, est dit deux fois dans ce chapitre 4. Nous l'avons lu les deux fois. Au chapitre 4, donc, les versets, le verset 6 en particulier, et le verset 22, ou à la fin du 21, vos 21-22, lorsque dans l'avenir, vos fils interrogeront leur père, disant, « Que sont ces pierres ?» Vous instruirez vos fils en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec, etc. » Ce témoignage doit donc être transmis de génération en génération. Sommes-nous conscients et restons conscients de ce qu'est ce témoignage de l'unité du corps de Christ. Ce n'est pas nous qui sommes ce témoignage, non. Le seul pain auquel nous participons est ce témoignage. Et il n'est pas le témoignage de l'unité de ceux qui sont d'accord entre eux sur tous ces points doctrinaux. Il est le témoignage de l'unité du corps de Christ formé de tous les rachetés du Seigneur dispersés sur la face de la terre. Maintenant, ce témoignage, coûte que coûte, et transmettons-le dans son intégrité à la génération qui nous suit. Ce n'est pas un rite que nous pratiquons le dimanche matin. Ce n'est pas un sacrement que nous recevons de la part du Seigneur. Non, c'est un témoignage qui est rendu par ce seul pain auquel nous participons. Ce n'est donc pas pour rien que par deux fois, c'est ce que nous venons de souligner et mentionner. Mais il y a encore autre chose dans ce même chapitre 4. Et c'est peut-être moins évident, moins compréhensible, quelque chose de caché. Au verset 9e, nous l'avons lu, Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche. Et elles sont là jusqu'à ce jour. Il n'était donc pas nécessaire, à l'égard de cet autre monument de 12 pierres, qui est resté là au milieu du Jourdain, Oh, nous pensons bien que les eaux du Jourdain, quand elles sont revenues, a peut-être fait dégringoler ses pierres. Mais ce n'est pas là la question. Elles sont là jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ce même monument de 12 pierres, là au milieu du Jourdain, sur lesquelles les eaux vont passer sitôt après. Mais c'est notre état de mort. C'est ce que, disons, ce à quoi nous avons été associés avec Christ dans sa mort. Donc, ce qui caractérise l'homme naturel, ce qui caractérise notre chair, aussi bien individuellement que collectivement, il est là dans la mort. Il a été associé à Christ dans sa mort et il est là jusqu'à ce jour. Elles ne devaient être jamais ressorties de ce lieu. Elles y sont restées jusqu'au bout. Elles sont là jusqu'à ce jour. Oh, si nous le réalisions. Lorsque nous sommes ensemble, dans une réunion d'administration par exemple, lorsque nous sommes ensemble, en dehors du local, quand on s'entretient ensemble, est-ce que la chair, le vieil homme de chacun et de tous, est-ce qu'il est vraiment resté au fond du Jourdain? Est-ce que ces eaux de la mort ont vraiment passé dessus pour le couvrir définitivement? Ce n'est pas toujours le cas. Et il semble que bien des fois, et ce n'est pas seulement ici, ça, je le dis par expérience, c'est partout que ça se passe. Il semble que bien des fois, ce petit monument de 12 pierres noyées sont encore visibles et on essaye d'en sortir des petits morceaux. La chair se manifeste. Elle n'est pas meilleure chez les chrétiens que chez le monde. Nous avons lu au chapitre 22e. Et là encore, il est question des fils, des générations qui suivent, mais c'est un tout autre langage. Il s'agit donc de ces deux tribus et demie, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, qui, par le désir de profiter le plus vite possible d'une bénédiction matérielle, de quelque chose de favorable, avaient demandé à Moïse de pouvoir rester là, de l'autre côté du Jourdain, dans les pays de Galaad, évitant pour leur famille et pour leurs troupeaux ce passage du Jourdain et puis ensuite cette difficile conquête d'un pays. La victoire avait été remportée sur ces deux rois des Amoréens. Un pays était là, placé devant eux. Ah, faut vite en profiter. Et ils sont là, bien installés, ayant eu l'autorisation de la part de Moïse, certes, mais ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils ont des scrupules, du moins des hésitations, et ils font tout un raisonnement pour dire, bien peut-être dans l'avenir, il y aura quelques difficultés qui vont surgir entre nos descendants et puis ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain. Il faut faire quelque chose. L'homme doit entrer en action. La pensée de l'homme, le raisonnement humain va entrer en action. Mais avant de débattre, avant de dire quelque chose sur les versets 21 à 28 ou 29 que nous avons lus dans ce chapitre 22, soulignons encore autre chose, et ceci au verset 12 de ce chapitre 22. Nous avons donc lu que ces deux tribus et demie ont construit cet autel de grande apparence, et le verset 12 nous dit « Et les fils d'Israël l'ayant appris, toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo pour monter en bataille contre eux. » Voilà. À une action de la chair, car certainement c'était une action de la chair, de construire cet autel de grande apparence. À une action de la chair répond une autre action de la chair. Et c'est la guerre. Est-ce que nous n'avons pas les mêmes risques aujourd'hui? Est-ce que ces mêmes pièges, ce même genre de piège, n'est pas devant nous et encore aujourd'hui, en 1992, à l'action de la chair? Répond l'action de la chair. Il est dit, les fils d'Israël, l'ayant appris, toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo. Non, ce n'était pas juste. Mais ils avaient l'impression d'être toute l'assemblée des fils d'Israël. Déjà, une première pensée, ceux-là qui sont restés là de l'autre côté du Jourdain ne font pas partie de cette assemblée des fils d'Israël. Il est bien dit, toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo, et il manquait deux tribus et demie. Donc la notion de l'unité du peuple est déjà perdue, et ceci par ceux qui sont en principe fidèles, à ceux qui sont dans une bonne position, qui sont à la juste place. C'est ceux-là qui font déjà la première erreur, comme réaction à une action charnelle. Et ils se réunissent pour monter en bataille. D'emblée, leur pensée initiale, il faut faire la guerre, il faut lutter, il faut guerroyer, il faut contester, il faut se battre. Quel déplorable état d'esprit. Est-ce que on en est toujours exempt? Baissons la tête. Hélas. Combien de fois, et parfois pour des choses beaucoup plus bénignes encore que celles-ci, on s'élève avec violence et on lance des, je dirais presque des anathèmes, en tout cas des menaces à l'égard de tel frère, de telle sœur, parce qu'il n'a pas agi comme j'aurais agi moi. Et on juge les autres par rapport à une norme personnelle, plus que par la parole de Dieu. Et cette pensée de monter en bataille, elle est charnelle. Heureusement que, quand même, ils se ressaisissent et ils envoient Phinéi, au verset 13e de ce chapitre. Phinéi, l'homme sage, l'homme qui a eu à cœur les droits de l'Éternel dans une autre occasion où il est dit dans un psaume, Phinéi se leva et a été jaloux pour l'Éternel et cela lui a été compté à justice. Sauf erreur, c'est le psaume 106. Mais notons aussi un rapport pour mettre en relation avec l'état de l'Église aujourd'hui. Quand, et je viens de le souligner, au verset 12e, il est dit « Toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo. » Oh, n'ayons jamais, oh, jamais la pensée que lorsqu'une assemblée se réunit dans une localité, que toute l'assemblée s'y trouve. Non pas seulement parce qu'il y a quelques malades ou quelques infirmes qui ont dû rester à la maison ou pour quelque autre cause. Mais ayons conscience que nous ne sommes qu'un tout petit groupe, qu'un tout petit, je dirais, une toute petite particule d'un ensemble que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les éléments que le Seigneur connaît. Et n'ayons jamais et refusons dans notre esprit cette pensée, je dirais, sectaire, et surtout de supériorité, de penser que nous, au moins, on est là où le Seigneur a voulu que nous soyons. Quant aux autres, ma fille, le Seigneur s'en occupera. Oh, n'ayons pas une telle pensée. Mais humblement, reconnaissons que, hélas, nous ne sommes qu'une petite partie. Et ayons conscience, plutôt, n'ayons pas ce qui est reproché au peuple, dans un petit prophète, je ne saurais pas le trouver tout de suite, mais on pourrait le chercher sur une concordance. Vous ne vous affligez pas de la brèche de Joseph. C'est un des petits prophètes, je ne sais plus lequel. vous n'êtes pas affligé de la brèche de Joseph. Il s'était accoutumé, ces 10 tribus, donc Éphraïm, et ceux qui ont suivi la brèche de Joseph, cette brèche qui avait été faite lors de la scission du temps de Jéroboam, eh bien, on s'y était accoutumé. Et c'était finalement chose normale. On ne s'en affligeait pas. Affligeons-nous. Menons au deuil. Et gardons cette conscience profonde de l'anomalie qui existe aujourd'hui, et peut-être même de plus en plus, que l'unité qui est proclamée par le seul pain auquel nous participons n'a pas sa correspondance dans la réalité visible. Mais cependant, elle est là. Cette unité est là, Dieu la voit, le Seigneur la voit, elle est en Christ et elle demeure. Venons-en maintenant brièvement à ce discours assez pénible à lire. Et chacun l'a remarqué, cette lecture depuis le verset 22 jusqu'au verset 29e, elle est lassante. Il y a une répétition, on revient sur les mêmes arguments, et bien des fois, mais vos fils diront à nos fils, on suppose beaucoup de choses, et on prévoit une multitude de choses, et pour y parer, on établit des ordonnances, on établit des formules, va savoir un schéma, et on se... Non, des deux côtés. On se construit, en quelque sorte, quelque chose qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, mais pour nous sécuriser, et pour essayer de sécuriser la génération qui monte, pour pouvoir leur dire, eh bien voilà, le rassemblement autour du Seigneur, ben c'est comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Non, ce n'est pas ainsi. D'ailleurs, la preuve, jeudi dernier, lorsque, à La Rochelle, le thème a été choisi concernant le rassemblement « Pourquoi, où et comment ?» de plus jeunes ou de moins jeunes auraient désiré entendre « Eh bien voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est ainsi qu'il ne faut pas faire. » On n'a pas pu le dire. Parce que Dieu ne nous donne pas des schémas. Il ne nous donne pas un canevas ou bien un échiquier sur lequel il faut simplement poser les pions. Non, il nous donne des principes généraux et en relation avec la personne du Seigneur, le rassemblement se réalisera avec le centre d'attrait, le centre qui fait converger tous vers lui. Peut-être avec des différences, avec des distances plus ou moins grandes, mais ayant tous cette convergence sur un seul centre qui est Jésus. Alors, toute cette argumentation, elle aurait été superflue si ces 2 tribus et demie avaient dit simplement, « Eh bien voilà, il y a de l'autre côté du Jourdain, vous pouvez le voir, ce petit monument de 12 pierres, il est là-bas, de l'autre côté du Jourdain, et c'est là le témoignage de l'unité du peuple. Il y en a 12 là-bas, on n'en veut pas mettre 2 et demie ici. » Et ainsi... le témoignage aurait été suffisant pour la génération suivante et toute cette argumentation n'aurait pas été nécessaire. Ce chapitre 22 dans son ensemble nous montre alors quand même quelque chose de positif à l'égard de Phinéi. Lisons juste pour terminer, lisons quelques versets encore et les paroles que Phinéi va adresser à ses 2 tribus et demie pour répondre à toute leur argumentation. Il ne dit pas grand-chose, mais c'est significatif. Au milieu du verset 31e, « Nous connaissons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous en ce que vous n'avez pas commis ce crime contre l'Éternel. Maintenant, vous avez sauvé les fils d'Israël de la main de l'Éternel. » Quelle réponse? On n'aurait pas répondu ainsi, j'en suis sûr. On aurait dit bien, bon, on accepte, d'accord, on ne va pas se guerroyer plus longtemps, on ne va pas disputer, eh bien, heureusement, les choses vont se classer comme ça, on va couvrir la chose et c'est tout. Non. Il va beaucoup plus loin en ce qu'il dit, vous avez sauvé les fils d'Israël de la main de l'Éternel. Jamais nous n'aurions tenu un tel langage. Et lorsqu'il y a quelques différends, voire même, hélas, quelque animosité, quelques sujets de litige entre deux frères, deux sœurs, ou peut-être deux factions dans une assemblée. Oh, si, lorsque les choses se règlent, il y avait un tel langage, vous nous avez sauvés de la main de l'Éternel. C'est à la partie coupable, mais qui expose simplement les raisons qui les ont fait agir et le but qu'ils ont poursuivi, qui n'était pas ce qu'ils pensaient, ce que les fils d'Israël pensaient. Il suffit de cela pour que Finé leur dise, « Eh bien, vous nous avez sauvés. » Ils attribuent, Finé attribue à ces deux tribus et demie, en somme, la responsabilité de la délivrance. C'est vous qui nous avez sauvés. Quelle parole de grâce qui va au-delà de ce que l'on pourrait penser. Et voilà comment, oh, si au moins c'était toujours ainsi, comment les litiges, comment les contestations peuvent avoir un véritable point final. De cet autel de aide, comme nous l'appelons, autel de témoin, il n'en est plus fait mention. Il était inutile. Il est tombé en ruine, certainement. La parole de Dieu ne le mentionne plus. Donc, les efforts de l'homme, les efforts même louables pour avoir un témoignage que nous pensons être meilleur que ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est inutile. Ça tombera en ruine. Maintenant, le seul témoignage quant à l'unité du peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire l'unité de l'Église, maintenant, dans sa simplicité, ce seul témoignage qui existe, notre participation au seul pain que le Seigneur nous a donné en mémoire de lui.